Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle Réu, Alexandre et Mathieu.
Salut.
Salut.
Alors aujourd'hui, on sort les distilles, les psychotropes et les voix plaintives d'Anzimer, puisque ça y est, après avoir été repoussé à la suite de la grève des scénaristes et des acteurs, Dune, deuxième partie, débarque enfin dans les salles de cinéma. Et si le film a pour lui sa nature d'adaptation fantasmée d'un monument de la science-fiction et un casting démentiel avec entre autres Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh et j'en passe, c'est peut-être le film qui intronise définitivement son réalisateur Denis Villeneuve. Et mine de rien, pour tous ceux qui se plaignent de ne plus vraiment voir de réalisateur d'auteur affirmé et reconnu dans le giron des blockbusters, il est indéniable que le cinéaste québécois a trouvé une place particulière dans l'industrie. Donc si j'ai fait appel à vous pour cette réu, c'est pour qu'on retrace ensemble la filmographie de Villeneuve, film par film, pour dégager des angles et de potentiels articles. Alors l'avantage, c'est qu'on peut facilement scinder sa carrière en périodes, et c'est ce qu'on fera au travers de trois réus différentes. Et ça sera pas mal parce que la filmo de Villeneuve peut paraître assez insaisissable dans ses choix de sujet et de ton, même si je pense qu'il y a quand même une certaine cohérence thématique à déceler de tout ça. Donc, mais avant qu'on entre dans le détail, bah, commençons peut-être quand même par ce qui nous intéresse aussi dans l'immédiat, à savoir Dune 2, puisqu'on a eu l'opportunité de le voir tous les trois en avance. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé, Alex, peut-être pour commencer?
J'avais beaucoup aimé le premier, donc j'attendais avec impatience le deuxième qui était très attendu par rapport à tout ce qui n'était pas dans le livre, comment il allait l'étudier, etc. Et surtout par rapport à cette grande promo annonçant beaucoup plus de spectacles, beaucoup plus d'actions, etc. Et si j'ai été un poil déçu à la sortie par rapport à certains éléments, notamment tout ce qui était la question du grand spectacle, en gros, que je trouve un peu pas chiche parce que c'est un peu couillu de dire ça parce qu'il y a quand même de grandes scènes, mais un poil en deçà de ce que j'imaginais. Je trouve quand même le film très réussi, tout simplement. Je trouve qu'il y a vraiment des superbes questionnements. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que il a réussi à supplanter cette idée de grand spectacle par tous les enjeux qui sont vraiment intéressants dans le livre Dune en lui-même déjà. Donc tous les enjeux politiques, religieux, militaires aussi, voire tout simplement familiaux par rapport à la famille de Paul, par rapport à ses connaissances avec les Fremen, etc. Et non, je trouvais ça vraiment très beau.
Ok. Et toi, Mathieu?
D'abord, je dois préciser que je suis vraiment pas très fan. Enfin, j'aime plutôt bien le premier Dune, mais je pense, vu qu'on parle de sa carrière, que c'est le film de sa période américaine que j'aime le moins, de loin.
Ok.
Et de fait, j'y allais un peu avec méfiance et j'ai beaucoup aimé, pas autant qu'Alex bien sûr, mais je trouve qu'il corrige beaucoup de défauts du premier, à savoir notamment qu'il ajoute des choix d'adaptation, ce qui manquait je trouve vraiment au premier, ce qui me le rend vraiment hyper antipathique pour moi. Je suis pas de ceux qui trouvent que c'est beaucoup trop froid ou machin, parce que je trouve qu'on va en reparler je pense, mais sa passion pour l'architecture brutaliste et ce genre de choses, ça colle plutôt bien à une interprétation, on va dire, du bouquin de Herbert. Et je trouve que la façon dont il a repensé l'architecture de sa narration fait beaucoup de bien au film, c'est beaucoup plus agréable à suivre, et surtout que les thématiques qui l'intéressent vraiment, elles ressortent enfin, c'est pas juste une adaptation de bon élève, elles ressortent enfin de son adaptation, notamment bon voilà le revers du White Savior, etc., qui je trouve devient assez intéressante, et en plus c'est très spectaculaire, donc moi ça me va.
Bah pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi, Mathieu, parce que sans être peut-être aussi extrême que toi, parce que j'aime plutôt bien le premier Dune, mais c'est vrai que je trouvais qu'il avait ce côté, effectivement, comme tu dis, bon élève. En plus, moi, j'avais lu le bouquin un peu de temps avant, donc tu sens qu'il switch entre ses scènes parce qu'il a besoin de créer non seulement de poser toute l'exposition un peu nécessaire du film, mais aussi de t'amener ce qui va devenir un peu le compte à rebours un peu inévitable, l'épée de Damoclès que devient l'attaque des Harkonnen.
Alex qui donne une ligne d'analyse.
Oui, parce que j'entends.
De la merde.
Incroyable, il doit faire de l'exposition pour expliquer Dune. Oh là là.
Non, mais tu vois, mais je trouve, il y a une manière de le faire, et je trouve que justement, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Dune 2, c'est que dans le 1, tu switches quand même très souvent d'ambiance en ambiance, de planète en planète, de personnage en personnage. Là, le 2, il choisit Alors certes, c'est un peu plus simple, mais il pourrait ne pas le faire en soi. Il prend quand même bien une bonne demi-heure, 40 minutes, d'abord vraiment sur les Fremen, sur Paul, sur qui apprend les coutumes sur Arrakis. Et je trouve que ça fait un bien fou au film, qui a vraiment le temps de respirer avant que tu repasses au Harkonnen, avant que tu repasses à tous les autres personnages qui s'imbriquent au fur et à mesure dans le récit. Et donc quand on arrive au climax, ça me paraît beaucoup plus organique et naturel que ça ne l'était dans le premier. Et c'est aussi pour ça que ouais, là-dessus, moi je trouve le film beaucoup plus engageant, beaucoup plus spectaculaire aussi, mais surtout moi c'est beaucoup plus humain en fait. Pour le coup, je trouve que la froideur chez Villeneuve est quand même un truc qui peut un peu revenir, mais surtout dans sa manière de gérer les conflits humains. Et là, je trouve que c'est tellement plus beau. Il prend son temps. Il y a plein de scènes qui ont le temps d'exister, des personnages qui ont le temps d'exister aussi et dans leurs relations. Et donc, je trouve le film beaucoup plus engageant pour ça.
Ouais, je suis d'accord sur le côté beaucoup plus d'émotion. C'est vrai que moi, c'est un élément qui me manquait vraiment dans le premier. Mais c'est pas forcément un élément qui me manque, enfin qui va être rédhibitoire dans l'idée pour moi dans un film que ça manque d'émotion, d'autant plus pour un film aussi parce que au final quand tu lis le livre Dune, il n'y a pas tant d'émotion que ça. Tu peux t'attacher au personnage, mais au final c'est plus la grandeur de toutes leurs actions ou tous les enjeux immenses qui se jouent dans des destins aussi personnels ou aussi petits finalement, en fait comment le grand destin est joué par des destins individuels très personnels et des petits détails quoi finalement, et je trouve que ça n'apportait pas forcément beaucoup d'émotion au livre, et donc ça me dérangeait pas spécialement dans le premier. Mais c'est vrai que avoir plus d'émotion et le fait que ça prenne plus son temps vis-à-vis de tout simplement qu'il fasse vraiment des distinctions, pas comme dans un film choral, qui pourrait correspondre un peu plus au premier, qui prenne son temps du côté des Fremen, puis ensuite des Harkonnen, et puis qui fasse un petit détour par ici ou par là, mais sans que ça soit 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, et que du coup on s'y perde et qu'on se dise mais on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Je trouve qu'en effet ça tient mieux dans le deuxième.
Bon, en tout cas, Dune 2, de toute façon, on en reparlera dans la réu qui sera dédiée au diptyque Dune à ce moment-là. Et de toute façon, bon, le problème, c'est que Villeneuve a quand même une carrière qui est finalement assez riche, hein, donc on va pas pouvoir parler de tout, notamment de ses courts-métrages, même si c'est forcément très intéressant.
D'explorer sur YouTube, c'est très très bien.
Et donc, pour cette réu-là, la première, on va se concentrer avant tout sur ses films québécois. Et donc, on va commencer avec son tout premier, sorti en 1998, à savoir Un 32 août sur Terre.
Ouais, Un 32 août sur Terre, en gros, c'est... Alors, pour faire un rapide résumé, donc c'est son tout premier film, long-métrage officiel en tout cas. Et en gros, c'est une jeune femme qui s'appelle Simone, qui a un accident de voiture parce qu'elle s'endort au volant, tout simplement.
Ouais.
Et ce qui revient pas mal au début de sa filmo d'ailleurs, hein.
C'est vrai.
L'idée d'accident en tout cas, qui du coup se réveille de son accident, par miracle elle est un peu indemne, même bon au fond elle se prend un arbre, hein, donc c'est quand même pas non plus...
Il est quand même vénère, hein, l'accident au départ, mais oui, elle s'en sort sans trop de dommages.
Disons que tout va bien finalement, elle se dit quand même j'ai survécu en fait, donc elle remet un peu sa vie en question, et donc elle quitte son emploi. Elle annule un voyage
en Italie.
En fait, il y a aussi le fait que le docteur lui prédit qu'elle va perdre de la mémoire directe. J'ai l'impression que ça joue aussi un peu dans sa décision de remettre beaucoup de choses en question, avec le fameux exemple qu'il lui donne où elle retient pas les trucs quelques secondes après qu'on lui dise, en fait.
Possible, je me souviens plus exactement.
Parce que j'ai revu il y a deux jours.
En tout cas, c'est sûr que, en tout cas, ça lui fait un déclic, et elle se dit qu'il faut qu'elle change, qu'elle évolue. Et du coup, elle décide d'aller chercher son pote Philippe. Parce qu'elle sait où il se cache. Et du coup, c'est son meilleur ami, hein. Et du coup, elle lui dit, je veux faire un enfant avec toi. Et lui, il en bat. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que lui, il a une petite amie, en fait. Et il lui dit, ok, mais si on le fait ça dans le désert. Il s'en met. Et c'est là que je trouve en fait ce film hyper intéressant, c'est que par rapport à tout ce qu'on connaît de Denis Villeneuve aujourd'hui, donc
c'est Brosson.
Voilà, c'est des films très sombres, Prisoners, Sicario, Dune, Blade Runner 2049, où on ne s'éclate pas spécialement. Oslo 32 août. Alors vraiment, j'ai un problème avec ce film parce que j'ai l'impression qu'il est lié à Oslo 31 août sur Terre. Mais
Oslo 31 août sur Terre, le crossover.
C'est un film de Joachim Villeneuve et de Dune Trier. Mais non, donc Un 32 août sur Terre, je trouve que c'est un film très drôle. C'est certes, ça s'attaque à beaucoup de points un peu tragiques, évidemment, par rapport à son accident, son évolution. Ça parle de maternité, d'envie, de tout simplement de vie, en tout cas. De la peur de la mort, on y reviendra aussi comme on en parlait. Mais je trouve que c'est un film extrêmement drôle. qui par rapport à sa manière de aussi de filmer, de mettre en scène, je trouve, a quelques petites idées subliminales pas inintéressantes, notamment le moment où ils arrivent vraiment pour la première fois dans le désert, sur une route qui a vraiment une forme de pénis, hein, tout simplement, dont la fin de la route ressemble à une forme d'éjaculation, puisque le désert est blanc, en fait.
Oui, c'est une sorte de désert de Salt Lake City qui est effectivement
immaculé. De sel.
Et voilà.
Et du coup, je pense qu'il y a vraiment des idées comme ça. Enfin, dès ce moment-là, il y a des idées hyper intéressantes, juste visuelles. Ce qui va quand même être une belle marque de fabrique dans le reste de sa filmo, notamment hollywoodienne. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est plutôt un bon premier film.
Bah, c'est assez intéressant comme projet parce qu'on sent. Je pense que pour un premier film, t'as souvent ce côté très théorique. Et là, je pense que pour un cinéaste québécois, il se renvoie forcément aussi à une certaine idée du cinéma français. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'idée qu'on se fait de Villeneuve, d'un mec très stylisé, enfin, tu sais, avec des plans un peu posés, voire un peu poseur parfois, mais on pourrait y revenir. Là, il est quand même dans un truc beaucoup plus immédiat. Et même s'il y a des plans très beaux, d'ailleurs, notamment dans le désert, t'as un truc aussi très nouvelle vague quand même dans l'esprit. Et il l'assume totalement, puisque quand Philippe retourne dans son appartement et avant de partir à Salt Lake City, et qu'il y a sa copine qui est dans sa salle de bain, quand il passe dans le couloir, il y a un poster de Gene Seberg, période Godard, qui est affiché là. Donc tu vois qu'il y a quand même des référents qui tournent à ce moment-là. Et en fait, j'aime plutôt bien comment il gère ça avec des cuts et des panoramiques rapides, avec justement une idée de mouvement très, très surdécoupée, et voire carrément d'assumer aussi que dans l'espace qu'il lui donne, c'est avant tout le dialogue entre les personnages qui l'intéressent. T'as ce long dialogue où justement Simone convainc Philippe que oui, ils doivent faire ça. Et qu'ils doivent aller, c'est avant même qu'ils lui disent qu'ils veulent faire dans un désert, mais ils traversent cette espèce de rue avec des maisons aux alentours. Et en fait, quand tu regardes bien, il y a un cut, ils reviennent en arrière pour reprendre le dialogue. Enfin, tu vois, à ce moment-là, l'espace n'a plus d'importance parce que vraiment l'idée, c'est on a du jump cut et c'est pas très grave. Tu reviens en arrière et ils traversent le même espace encore et encore. Donc il y a déjà un truc en plus très mental de la part de Villeneuve, je trouve, dans sa manière de gérer l'espace. Et c'est un truc qui, forcément, dans Sicario et dans Dune en particulier, va être assez probant et assez intéressant. Donc je trouve le film, je trouve pas le film parfait. Je trouve qu'il a tendance à partir en sucette en cours de route d'un point de vue tonal, parce que effectivement, tu parlais, c'est une comédie absurde en fait. Et qui tourne en même temps à l'espèce de drame dépressif, notamment dans le dernier acte, qui est un peu bizarre. Donc, et je trouve que parfois le film, c'est pas toujours sur quel pied danser, mais il y a plein d'idées déjà très intéressantes. Et je pense qu'effectivement, quand tu le vois encore plus maintenant comme un premier film, c'est assez intéressant de voir où ça mène Villeneuve après.
Ouais, moi j'aime beaucoup le côté qu'il y a dans le début de sa carrière, avant une certaine cassure qu'on va évoquer par la suite, d'une sorte d'humour pince sans rire un peu morbide, parce que là quand même l'idée de la mort est quand même omniprésente. Il y a ce cadavre d'ailleurs qu'il trouve dans le désert, ce genre de choses, mais je trouve ça assez drôle et assez touchant, la meilleure blague étant selon moi le moment où il décide de trouver un endroit pour Ken au milieu du désert, et il leur faut genre marcher 20 minutes pour se rendre compte que ça va rien changer vu qu'il y a littéralement aucune aspérité sur ce désert, il est tout plat.
Le mec dit d'ailleurs littéralement, je pensais qu'il y aurait plus de dunes.
Oui, c'est vrai.
Signe prémonitoire.
Après, je trouve qu'en termes de style, et c'est marrant ce que tu dis sur le truc poseur, pour moi ça ressemble vraiment à l'archétype un peu du premier film, dans parfois ce qu'on peut en dire de façon un peu moqueur, c'est-à-dire que la mise en scène, enfin, c'est-à-dire que le gars, je crois, au cinquième plan, il nique la règle des 30 degrés dans son accident, là. Ça fait un jump cut trop bizarre. Et ensuite, c'est la fête du slip, quoi. Il y a des méga longues focales filmées quand il avance. Enfin, il fait des plans zénithaux pour aucune raison, des fois. Enfin, tu sens qu'il est quand même, il y a quelque chose à prouver, tu vois. Ce qui est, je pense que si moi je faisais un long métrage de fiction, probablement que ça ressemblerait à ça aussi. Donc c'est à peu près normal, hein. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire oui, c'est un peu poseur et tout, et je trouve que ça l'est plus à ce moment-là où tu sens qu'il a un truc à prouver. Bon, c'est normal, c'est le début, mais sinon je trouve le film assez doux. Je l'ai découvert en en préparant cette réunion, et le côté un peu surréaliste qu'il y a, bon voilà, parce que ça commence le 32 août et on s'enfonce dans une sorte de dimension parallèle.
Ouais,
en
c'est,
fait.
Ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est là qu'il y a, je trouve qu'il y a une interprétation, enfin qu'il pourrait y avoir une interprétation un peu au-delà justement, c'est cette idée de finalement, est-ce qu'elle s'est vraiment réveillée, tu vois, de cet accident, ouais. Parce que elle imagine les jours d'une manière vraiment différente, c'est 32 août, 33 août, 34 ouais. août, 35 août, jusqu'au moment où il y a une vraie bascule où on passe en septembre parce qu'il y a un élément qui vient retourner la chose. Mais est-ce que véritablement elle était éveillée totalement? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez dans la manière dont dans les paysages, tu vois, quand ils arrivent dans ce désert qui fait vraiment pas qui te semble pas réaliste, quoi, qui semble
oui,
pas réel,
totalement onirique comme
c'est
espace,
ça c'est ouais. Exactement, il y a quelque chose d'assez onirique même dans leur relation, dans cette chambre d'hôtel très très étrange.
Ah oui, espèce de truc de science-fiction,
ouais,
un peu bizarre,
très futuriste ouais. Et tout. Et pour moi, il y a vraiment cette idée aussi de. C'est ce que tu disais, Mathieu. Il y a un peu cette idée de prouver que, en fait, avec un pitch un peu bateau, finalement, un élément vient perturber la vie de quelqu'un et elle remet en cause sa vie. Qu'on peut aller chercher plusieurs interprétations. Il y a cette idée du drame existentiel pur et dur. Il y a la comédie autour et en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas une interprétation beaucoup plus philosophique de passer un rêve, mais plus un passage vers l'au-delà inattendu.
T'as ce contraste intéressant en fait entre pour le coup le mouvement qui les amène à l'extrémité d'aller carrément dans un autre pays, du coup de partir du Québec pour aller aux États-Unis, pour aller à Salt Lake City. Donc l'idée vraiment du mouvement pur et dur, d'une sorte de conquête de l'Ouest d'une certaine façon, alors qu'au final ils sont contraints après l'accident en fait, tu vois, enfin dès l'accident, une forme de fixité. Et c'est aussi pour ça que je trouve que pour le coup le côté nouvelle vague fonctionne pas trop mal dans l'esthétique, puisque l'envie du jump cut quand ils sont dans des espaces beaucoup plus fermés, notamment dans cette chambre d'hôtel en huis clos un peu étouffante, où ils tournent dans tous les sens sur le lit en buvant de l'alcool, t'as un peu ce truc là où de toute façon en fait même quand ils essaient de se dépatouiller de cette espèce de vie insatisfaisante qu'ils ont, ils arrivent jamais vraiment à en ressortir. Et je trouve aussi que c'est peut-être moi ce qui m'intéresse chez Villeneuve et qui ressort beaucoup dans son début de carrière, en fait, c'est un truc très générationnel, mais que peu de cinéastes avaient peut-être à l'époque, mais déjà de ce truc quand même d'une génération qui s'interroge sur non seulement sa propre mort, mais qu'est-ce qu'elle laisse derrière soi, est-ce que on peut avoir des enfants, est-ce que c'est pas déjà trop tard en fait, tu vois, enfin tout ce qui est lié aujourd'hui potentiellement à des trucs d'éco-anxiété qui peuvent ressortir d'une certaine manière dans le cinéma actuel, lui il le pose sans forcément dire les termes, mais c'est déjà là en fait, tu vois, je trouve qu'en fait la crainte de Simone de je laisse quoi derrière moi dans cette vie est assez touchante, parce que tu te dis mais en fait ça évoque tellement des trucs finalement qu'on s'est posé peut-être 10 ans après et qui reviennent pas mal dans ces films, y compris dans le suivant. Je trouve ça assez intéressant.
La question de l'héritage est clairement un élément qui préoccupe Denis Villeneuve, je pense, à la fois humainement, un simple héritage familial, etc., mais de facto en tant que réalisateur un héritage artistique.
Et il y a le désert et l'architecture, voilà, ces deux marottes qui sont déjà là, bien présentes quoi.
Ouais, bah ouais.
En tout cas c'était passé quand même au Festival de Cannes et par plusieurs festivals, ça avait été sélectionné par le Canada pour représenter le Canada aux Oscars. Ça n'a pas passé dans la catégorie finale, mais c'est quand même un sacré début, c'est un certain regard à Cannes.
Et c'est même pas la première fois, parce qu'il avait participé à un film choral quelques années auparavant qui est sa première véritable réalisation de fiction, qui s'appelait Cosmos je crois, et qui elle aussi avait été dans la shortlist, enfin elle a pas été dans la shortlist d'Oscar, mais qui était présélectionnée pour donc ça fait déjà deux fois qu'il est possiblement dans le meilleur film étranger aux Oscars. Deux fois que ça lui passe sous le nez, et ça va bientôt être la consécration.
Moi d'ailleurs c'était marrant, parce que juste pour la petite anecdote, un 32 août sur Terre, je l'avais découvert justement il y a quelques années à Cannes pour la remasterisation qu'ils avaient diffusée au cinéma de la plage pour l'anniversaire aussi de son passage, qui était donc je crois Un certain regard, si je me trompe pas, ou à la quinzaine, je sais plus.
Oslo.
t'y arrives
je
pas,
fais
hein.
pas exprès hein, mais un 32 août sur Terre, oui c'était un certain regard,
un certain regard. Et je trouve que voir ce film là dans son ambiance, quand tu connais pas ce premier film là de Villeneuve, au cinéma de la plage à Cannes, il y a un truc un peu spécial qui est assez assez amusant. Mais bref, passons au film suivant qui sort 2 ans après, alors même 3 ans après en France, puisqu'il sort en 2001 en France, c'est Maelstrom. Et Maelstrom, c'est tout aussi bizarre, voire encore plus bizarre qu'un 32 août sur Terre, puisque le film démarre sur un poisson qui parle, et qui d'ailleurs est issu du magma aquatique du début de la formation de l'univers, voilà, tout un programme. Et ce poisson, il nous explique au début du film qu'il veut nous raconter une histoire, et cette histoire c'est celle de Bibiane Champagne, donc qui est jouée par
le meilleur nom de protagoniste de l'histoire du cinéma. Enfin, à quel moment ils ont dit qu'ils allaient l'appeler comme ça enfin.
Donc elle est Bibiane Champagne, jouée par Marie-Josée Croze. Et donc Bibiane, elle est issue d'une riche famille assez influente, et du coup on comprend au début du film qu'elle possède plusieurs magasins de luxe, voilà, autour des vêtements et tout ça, et que elle a réussi à faire son beurre comme ça. Mais un jour, elle renverse en voiture un pêcheur qui a le temps de rentrer chez lui et de mourir quand il est chez lui. Et du coup, elle se dit, bah, ça serait bien quand même que j'arrive à dissimuler l'épreuve. Et c'est là qu'elle se voit donner une chance de complètement changer sa vie, comme l'explique le poisson magique.
Qui meurt en boucle à partir d'un moment du film, en plus.
Oui, voilà. Parce qu'il se fait lui-même décapité par, du coup, un pêcheur qui...
Un poissonnier.
Enfin, un poissonnier zombie, d'ailleurs, parce que c'est un peu flippant, quoi.
Ouais. Bah ouais, on sait pas trop où il fait ça. Le mec a une sacrée
Il a des outils chelous, tu supposes que c'est plus ou moins dans le passé, enfin, ou dans une espèce de...
Moi j'ai plutôt vu ça comme une sorte de post-apocalypse, tu vois.
Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais.
Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce film-là? Parce qu'il est quand même un peu... Enfin, moi je sais que c'est de tous ceux que j'ai dû découvrir pour cette réussite, c'est vraiment celui où j'étais le plus en mode... Je ne sais pas trop ce que j'en pense.
Ouais, je l'avais vu il y a bien longtemps. Après avoir découvert Incendie, mais ça date vraiment. Du coup, je l'ai revu là et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que lui-même n'est pas hyper fan. Enfin, tu sens qu'il reparle souvent de ces films-là avec une sorte de détachement. Et par exemple, bon, cette histoire de poisson, etc. Ça, sur le papier, ça pourrait être vraiment ridicule. Mm. Je trouve que ça fonctionne. Bon, déjà parce que l'animatronique est incroyable. Franchement, c'est dingue qu'ils aient fait un truc aussi perfectionné pour presque ce qui est un gag. Et ensuite, ouais, cette idée de chaos cohérent, on va dire, que développe le film, d'une sorte de truc comme quoi tout est lié dans un univers ensemble, jusque quasiment métaphysique avec cette histoire de poisson, justement. Pareil, ça pourrait ne pas fonctionner, mais vu qu'il le traite avec une légèreté et pour le coup une vraie humanité, enfin, c'est-à-dire que la relation qui se tisse entre les deux dans la dernière partie du film est assez touchante, je trouve.
Quand tu dis les deux, c'est entre l'héroïne du coup et le fils du pêcheur
qu'elle a renversé.
Voilà, c'est ça, qu'elle rencontre en cours de route. Et
voilà. Ouais, non, vraiment, et je trouve que du coup il est un peu moins démonstratif dans sa mise en scène, mais il reste inventif, notamment avec les jump cuts et surtout les raccords dans l'axe. Il y en a beaucoup qui sont assez intéressants. Je trouve ça assez joli.
Ouais, bah, faut citer d'ailleurs que c'est du coup le deuxième film qu'il fait avec André Turpin à la photographie, qui avait déjà fait un 32 août et qui fera Incendie avec lui aussi, et qui plus tard fera tous les films de Xavier Dolan à partir de Tom à la ferme. Et moi, notamment, il y a un plan que j'aime beaucoup dans Maelstrom, quand elle tombe du coup avec sa carcasse de voiture qu'elle essaie de casser, enfin de cacher, donc en l'achetant dans la rivière, et que t'as ce plan assez merveilleux du phare arrière rouge pendant qu'elle plonge dans l'eau. Je trouve que pour le coup, tu te dis, il y a déjà toute l'esthétique Villeneuve quand même dans ce truc-là qui ressort et qui est assez belle. Pour
puis le gag de, elle pousse sa voiture, mais elle est tellement bête de pas y avoir pensé avant de la pousser comme ça allait pas fonctionner, quoi. Donc ouais, non, mais toute cette scène, elle est très bien. Le fait que elles doivent se rendre à l'évidence qu'elles doivent rentrer dans la voiture et du coup avoir encore ce rapport à la mort qui revient. Moi, il y a un plan que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont sur le bateau à la fin et il y a un genre de panneau entre elle qui est au bout du bateau et t'en viens de demander quelques secondes si elle est pas tentée de sauter à une autre forme de paix dans la mort, je veux pas spoiler, mais qui je trouve représente plutôt bien le rapport un peu morbide qu'a Villeneuve à l'époque et qui finalement est assez joli et assez libéré. On sent qu'il y a une sorte de presque de thérapie personnelle par rapport à la peur de la mort qui est assez agréable à constater. Et c'est vrai que ce film-là va vraiment détonner par rapport à ce qu'il va faire par la suite, notamment son prochain film et tout ce qui va suivre. Il y a un côté un peu rafraîchissant,
Un peu de poésie fantastique un peu étrange et qui en même temps, enfin, et qui amène pour moi un truc un peu holistique qui est pas déconnant avec ce qu'il fera plus tard dans son cinéma, et notamment dans son cinéma plus ambitieux de SF, mais où là je trouve que t'as déjà ce même truc du le pouvoir du cinéma et du montage lui permet effectivement d'interconnecter des destins, de les relier, de te montrer que finalement effectivement dans une sorte d'exercice de style très assumé, tout est lié et la vie et tous les éléments de la vie en fait se retrouvent comme ça. Mais je trouve que ça marche aussi parce que, enfin, je l'aime plutôt bien pour ça, parce qu'il y a une texture du film, il y a une patine qui est quand même un peu particulière du 35 mm avec des noirs assez contrastés. Ouais. Donc t'as vraiment des trucs qui ressortent pas mal, et pas que d'ailleurs dans les scènes avec le poisson qui sont super obscurs. Il y a un truc qui, je trouve, marche plutôt bien dans cette énergie-là, et notamment évidemment avec la symbolique de l'eau qui ressort de tout ça comme élément de renaissance, ou au contraire effectivement, est-ce que tu ressors de la surface de l'eau, ou est-ce que tu te laisses plonger. Je trouve le film parfois un peu balourd dans son symbolisme. Mmh. C'est d'ailleurs souvent un peu le problème de Villeneuve dans cette période-là. Et je pense que c'est d'ailleurs...
Ça va pas s'arranger.
Ça va pas s'arranger. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est avec Un Trône de Doute, les deux seuls films qu'il scénarise tout seul. Mmh. Et je pense que, tu vois, tu sens qu'il y a dans ces deux films-là toutes les thématiques qu'il a envie d'aborder déjà. Effectivement, sur cette idée d'une génération plus ou moins perdue, comment on écrit son héritage, parce qu'on comprend qu'elle a ce problème de comment elle s'inscrit dans l'héritage de ses parents, qui étaient eux aussi très influents. Et où il y a cette scène, pour le coup, je trouve assez jolie, de la photographe qui la prend en photo pour un magazine et qui lui dit « Je veux voir ta mère, je veux pas te voir toi, deviens transparente », qui a un truc qui est assez fort à ce moment-là. Mais où tout ça se... Enfin, tu sens que parce qu'il est seul à l'écriture, il n'arrive pas toujours à l'ordonner dans ce chaos, et je trouve que le terme va être intéressant parce qu'il revient souvent chez Villeneuve, d'ailleurs, ce terme de chaos. Et d'un côté, il y a un truc effectivement, comme tu dis, rafraîchissant à le voir un peu expérimenter, à pas trop savoir où il t'emmène, mais en même temps, il y a des moments où tu dis, ouh, ça serait bien si c'était un peu plus coordonné quand même dans l'énergie globale.
C'est un film sur le ruissellement dans les deux sens du terme.
Ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur ce film par rapport à tout ce que vous avez dit, d'autant plus que j'en suis pas du tout fan. Je pense que c'est vraiment dans la continuité de Un Trône de Doute sur Terre, dans cette idée de son premier film, mais c'est quasiment un prolongement plutôt d'ailleurs de ça, dans le sens où c'est un film qui peut paraître assez drôle dans son côté absurde vis-à-vis du personnage du poisson ou ce genre de truc, quand tu parles des destins liés, il y a quelque chose d'assez drôle ou en tout cas ironique à voir tout ce qu'elle a tout, en fait, de la voir à quel point elle s'est mise dans une sacrée histoire et qu'elle ça va être impossible d'en ressortir malgré tous ses efforts, et en même temps le fait que ça soit pas tout à fait linéaire, qu'on revienne à certaines séquences, notamment je pense à cette scène du restaurant avec le poulpe qui revient en permanence,
le poulpe coriace, d'ailleurs très bizarre comme expression, je ne connaissais pas.
Coriace, il est coriace le poulpe, pour dire qu'il n'est pas frais, voilà.
Je sais pas si c'est il n'est pas frais ou s'il est trop caoutchouteux, mais en tout cas cas il est pas bon, quoi. Globalement il est pas bon parce que elle a tué un pêcheur qui était vraiment trop fort
pour pêcher le poulpe,
pêcher le fameux poulpe pas coriace. Et il y a des trucs qui sont assez drôles, et en même temps le fait que ça soit non pas enfin que c'est quand même assez linéaire dans le sens où son récit avance du passé au futur, quoi, globalement. Mais en gros le fait qu'on revoit ces scènes et qu'on la revoit encore paniquer devant sa pote et cette histoire de poule, je trouve ça assez drôle. Et c'est vraiment toute cette question de vie ou de mort, il la prend au sérieux, et en même temps il en est finalement assez détaché, donc c'est ça que je trouve intéressant vis-à-vis de Villeneuve par rapport à tout ce qui viendra plus tard, ou au contraire on sera vraiment uniquement dans la gravité.
Je trouve que dans ces deux premiers films, la force de son concept, ce qui fait qu'il passe pas pour quelqu'un de prétentieux, c'est que c'est toujours sur le mode de l'anecdote. C'est des anecdotes en fait qui te racontent,
oui,
c'est une histoire un peu marrante, avec quand même une dimension un peu morbide, un peu plus philosophique que ça, on va dire, derrière. Mais dans l'idée, ouais, c'est des trucs un peu simples. Et moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne dans ces deux premiers films.
Ouais, c'est ça. Il y a l'histoire de cette histoire de faits divers, quoi. Alors,
ouais.
C'est un accident. La personne a écrasé quelqu'un, ou alors elle a eu un accident pour 32 août sur Terre, et il va s'en découler des choses.
Oui, d'ailleurs, dans les deux cas, il dit lui-même qu'il partait de l'idée d'accident, quoi. C'est lui, il a pensé à ça, et il s'est dit, qu'est-ce que je peux construire comme histoire autour de quelqu'un qui se crache en voiture, qui a un accident hyper banal, finalement.
Mais de toute façon, c'est quelque chose qui revient dans dans les quatre premiers films, au minimum, cette histoire d'un fait divers global, voire même cinq, si on parle de Prisoners, quand on parlera de Prisoners, mais un fait divers qui va avoir des conséquences, quelles seront les conséquences d'un fait divers sur les personnages et voir la communauté qui les entoure, etc.
Et puis c'est un truc qui va revenir, et je suis assez d'accord avec toi, je pense que cette intimité, ce côté un peu anecdotique fait que on accepte la philosophie aussi de Villeneuve, et des fois dans le symbolisme un peu balourd qu'il peut avoir, mais je trouve que c'est assez fort dans sa manière de parler finalement un peu toujours de la même chose, qui est comment tu as réapprends à vivre après une tragédie. Et là en l'occurrence j'aime beaucoup comment il utilise l'absurde pour en arriver à ce que d'ailleurs dit le poisson, qui est de raconter un long voyage vers la réalité, alors que le film n'est pas du tout dans une forme de réalité, mais il réapprend le personnage à s'inscrire dans une forme de réalité par le fantastique, et je trouve que là-dessus il s'en sort pas mal. Mais justement, ça fait peut-être bien transition avec son film suivant, mais qui sort bien après, puisqu'il faut attendre 2009 pour que Villeneuve revienne sur grand écran avec Polytechnique.
Absolument. Et donc c'est un gros morceau. Alors il faut quand même préciser que tout ce temps pour lui a été un peu, on pourrait presque dire une traversée du désert, lol. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Il dit qu'en fait, son film a eu pas mal de succès et lui, par contre, s'est retrouvé, critique du moins, et lui s'est retrouvé un peu dans une dimension, il savait pas où est-ce qu'il allait, en fait. Il cherchait un peu un but à son cinéma et il s'est rendu compte qu'il faisait que des films pour lui. C'est ce qu'il dit, hein, je le cite, qu'il faisait des films pour lui et il voulait un peu étendre son langage cinématographique. Du coup, il est retourné à l'école. Il a pris des cours, voilà, de je sais plus, d'écriture, de mise en scène. Il détaille un peu, je sais plus où, hein, ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais voilà, il a pris un peu de temps pour lui et pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Et ensuite, il
fait un film sur l'école.
Voilà. On peut dire qu'il a sauté dans le bain parce qu'il a fait peut-être le film le plus controversé de sa carrière, finalement, politiquement, qui est donc Polytechnique, donc sorti en 2009 et qui raconte, du coup, les faits réels de la tuerie de l'école polytechnique de Montréal, qui a donc eu lieu le 6 décembre 1989. Et donc, pour ceux qui ne... Enfin, si vous ne connaissez pas le fait en lui-même, c'est un homme qui
un tireur,
est un tireur, ouais. Voilà, qui est rentré dans l'école et qui a tué 14 personnes, je crois.
Ouais.
En revendiquant dans une lettre qu'il adressait avant de se suicider lui-même, que c'était une attaque contre le féminisme.
Voilà.
Donc contre les femmes en général.
Et contre les femmes
contre
en général.
Lui, il se considère lui anti-féministe.
Oui, lui voilà, se considère anti... Bon, voilà. Et bon, forcément, le film fait au Québec dans une vingtaine d'années après les événements, ça a fait parler, hein, logiquement. Et d'ailleurs, le film encore aujourd'hui fait un peu débat, non seulement par rapport à la manière dont il aborde, parce que le film lui-même, en fait, revendique une forme de respect par rapport à ce qu'il raconte. Il invente les personnages, enfin les noms des personnages. Il l'a pas tourné à Polytechnique.
Bon, de toute façon, on lui a dit non, en fait. Donc,
bah, alors, j'ai regardé, mais il y a
question.
Un peu deux versions de cette histoire en fonction, ah ouais, des sources que tu, parce que si t'en crois des journaux locaux comme La Presse ou Journal de Québec, Polytechnique a vraiment désapprouvé le projet dès le début. Dès 2005 d'ailleurs, au moment où ils en parlaient, et ce serait pour ça qu'il n'aurait pas pu tourner là-bas, ouais. Mais il y a d'autres articles dans la presse plutôt américaine, notamment Little White Lies, qui affirme que c'est lui qui a choisi spontanément d'aller tourner autre part pour, okay, pas empiéter, on va dire, sur, enfin pas trop faire un truc en mode documentaire voyeuriste, tu vois.
D'accord.
Puis tout le film baigne un peu dans cette idée de respect, mais il y a un in memoriam à la fin, mais ça reste bon, un exercice hyper complexe qui lui a été reproché, évidemment. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres non. Et aujourd'hui encore, ça reste un débat, d'autant qu'il est forcément dans l'ombre. C'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est pas une franchise, quoi, mais de Elephant de Gus Van Sant.
Le shooting cinématique.
Voilà, qui prend finalement... Gus Van Sant, lui, prenait une idée plus stylistique, enfin... plus thématique, enfin, comment expliquer ça? Il était beaucoup plus dans l'exercice cinéphile, enfin, ou cinématographique, là où Villeneuve se base vraiment sur les motivations du tueur. Ça commence avec, ouais, la lecture de sa lettre où, ouais, il revendique sa misogynie, et ensuite il va déconstruire ça de façon, je trouve, un peu lourde au début, en montrant que, bah, les femmes qu'il a attaquées, elles souffraient de la misogynie qu'il prétend qu'elle n'existe pas. Enfin, en gros, il démonte sa lettre par les
par
effets,
l'exemple,
par
oui,
l'exemple,
notamment
juste
avec
après.
Cette femme, que, enfin, l'héroïne d'ailleurs, hein, enfin, l'un des personnages principaux du film, qui passe un entretien pour une alternance ou pour un premier, ouais, boulot. Et,
pour un stage, elle dit.
Pour un stage, c'est ça. En mécanique, et où le mec qui fait l'entretien lui dit, ah bah, c'est rare une fille en mécanique.
Oui, puis on peut pas interrompre parce que vous aurez des enfants. Enfin,
oui, voilà. Ah oui, qui lui demande s'il va avoir des enfants. Oui, c'est vrai que l'entretien est assez terrible.
Voilà. Et donc, le film a une structure, encore une fois, comme dans Maelstrom, finalement, qui revient en arrière autour de trois personnages. Donc, le tueur, oui. Qui est d'ailleurs appelé le tueur et non pas par son nom et son prénom.
Ouais. C'est vrai.
Pour encore une fois ne pas jouer son jeu, un des témoins masculins et une des victimes.
Ouais. Bah, alors moi je fais partie de ceux qui n'aiment vraiment pas Polytechnique. Enfin, c'est même, je pense, le film que j'aime le moins de Villeneuve. En fait, je trouve que pour moi il condense tout ce qui va pas parfois dans le cinéma de Villeneuve, c'est-à-dire pour le coup son esthétique qui est très poseur par instant. Là, il y a l'argument que moi je trouve très fallacieux du noir et blanc, que où lui dit c'est parce que justement ça esthétise pas la couleur du sang qui est très présente, et je me dis ouais, mais en fait le noir et blanc ça amène un truc tellement classieux de base que pour moi, en plus, un peu évanescent, en plus dans le passé que tu réveilles, je trouve ça un peu puant sur les bords. Et surtout, effectivement, pour moi il y a un vrai problème, c'est que le film démarre, ce qui pour le coup est pas une mauvaise idée, je pense, sur des gens à la photocopieuse, et puis soudainement il y a un premier tir, et en fait après tu reviendras en arrière et on redécoupe l'événement, mais on te prévient tout de suite en fait que l'événement a lieu. Mais en fait je trouve que c'est un peu là aussi maladroit, parce que tu sens qu'il veut pas te dire je vais créer du suspense avec cet événement là, sauf qu'il peut pas s'en empêcher en fait, une fois que le tueur a écrit la lettre et qu'il débarque dans le lieu, qu'il attaque pas tout de suite, qu'il passe d'abord par l'entrée, qu'il a caché le flingue, enfin il y a un truc où Villeneuve, qui en plus est quand même très doué pour construire des bonnes scènes de suspense, peut pas s'empêcher de te construire une tension que je trouve un peu puante sur les bords, alors que justement elle est pas présente dans Elephant, et je pense que c'est toute la différence avec Elephant, que j'ai revu d'ailleurs le lendemain, tu vois ça. En fait, Polytechnique m'avait tellement énervé sur le moment, je me suis dit faut que je revoie Elephant, que j'avais pas vu depuis longtemps.
Fait un double programme feel good.
Le double programme de la mort, où je me suis dit je le remate, comme ça je vois pourquoi Elephant ça m'avait plu autant et pourquoi le film est autant resté et pas Polytechnique. Et en fait, effectivement, parce que Vincent, il fait un truc qui est magnifique, c'est que dans cette idée des long traveling, des moments qui retracent aussi le parcours des personnages à travers l'école, il s'attarde vraiment sur les petits riens en fait. Les moments où il te met des ralentis, c'est parce que les personnages se font un check, parce qu'il y a, ils se prennent une photo, parce qu'il y a un truc très simple qui se passe. En fait, t'as l'idée de l'inévitable. À un moment donné, les tueurs vont frapper, mais tout le monde vivait sa vie en fait. Et justement, t'as l'idée du choc qui frappe en surprenant tout le monde et personne pouvait s'y attendre. Là où Polytechnique, t'as cette espèce de tic-tac permanent, en fait, tu sais que ça va tomber. Et du coup, en plus, il te repasse l'événement sous deux points de vue différents. Donc, l'une des femmes qui se retrouve dans la pièce que le tueur prend d'assaut au départ, et l'un des mecs qui, lui, est sorti de cette pièce-là, qui a pu sortir et qui culpabilise énormément.
D'autant que là, il y a une sorte de petit quiproquo qui est un peu...
Ouais.
Sur est-ce qu'elle est morte ou elle est pas morte, c'est un peu...
Ah, sur la deuxième partie, ouais.
Ouais, quand c'est un peu étrange quand
même. Du mec qui a eu le droit de sortir, parce que c'est un mec.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu... j'avoue que ça... Moi, je suis peut-être pas aussi contre le film qu'Antoine, d'autant plus que, en fait, je suis pas spécialement un fan d'Elephant de Gus Van Sant. Donc, je pense que j'ai pas eu le même ressenti que toi. En tout cas, la même aversion, d'une certaine manière. Mais je suis un peu d'accord avec cette idée de... on le verra plus tard, encore une fois, hein, parce que ses films les plus forts, je pense, sont arrivés après sa période québécoise-canadienne. Mais c'est vrai qu'il est très très fort pour, au-delà de créer du suspense, juste de la tension, en fait, dans n'importe quel de ses films. Et c'est un peu bâtard dans celui-là, parce que je trouve qu'il se débrouille pas si mal. Hein. Je suis un peu d'accord avec toi, Mathieu, sur l'idée que finalement, il monte trois points de vue et donc... d'autant plus qu'on, comme on part du point de vue du tueur, en fait, on sait ce qu'il a fait. Donc, finalement, après, il n'y a plus vraiment de suspense. Enfin, il est plus techniquement obligé d'en faire, puisqu'on sait ce qui va se passer vis-à-vis de la classe qu'il prend en otage, etc. Et puis ensuite, quand il arrive au milieu du forum et qu'il dégomme tout le monde, tout ça, en tout cas les femmes. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu ambigu où il n'y arrive pas totalement. Notamment, c'est vraiment ce que tu dis, cette scène où... le mec voit des traces de... Enfin, on voit des traces de sang, donc on se dit, est-ce que c'est les traces de sang du tueur ? En fait, on saura plus tard que c'est pas les traces du tueur, mais que c'est les traces de la meuf qui a survécu. Parce qu'en fait, elle est pas morte, parce que dans la partie du gars qui pensait qu'elle était morte et qui était, était super
semblant.
Triste, elle faisait semblant parce qu'elle pensait que c'était le tueur et qu'eux-mêmes, ils sont dans une forme de suspense de qui est qui, en fait. C'est un peu ambigu, en fait, on sait pas vraiment pourquoi il fait ça.
Et puis
c'est
surtout
un peu dommage, je trouve.
Du coup, à partir de là, moi, il y a le vrai problème de. Un autre problème de Villeneuve qui est que son goût pour le symbolisme, qui peut être parfois très puissant quand ça se relève vraiment de, du symbole visuel, quand il l'explicite par du dialogue, alors là, c'est vraiment l'enfer. Et alors, vraiment, la fin de Polytechnique, donc il y a les deux points de vue, donc du mec qui lui culpabilise tellement qu'il finit par se suicider, et de la femme qui, elle, a survécu à l'horreur et qui essaye péniblement, mais elle essaie de se reconstruire et qui finit par écrire une lettre aux parents du tueur en disant voilà, qu'elle avait appris le pire de la haine, de ce qu'était la haine avec ce mec-là, qui lui avait pu se libérer en plus en se suicidant, alors que elle a dû se reconstruire, trouver un mari et fonder une famille, et que elle a eu beaucoup de mal à faire ça. Et ce qu'il illustre en plus par des trucs où elle passe du temps avec son mari dans des ellipses et tout ça. Mais en fait, je trouve ça mais tellement vulgaire et tellement too much et un peu indécent, en fait, je trouve, dans sa manière de le poser, de, en fait, il faut quand même croire en la vie dans tous les cas. Et je fais oui, mais non, en fait, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et pour moi, surtout, le film oublie un truc qui était fondamental dans Elephant, c'est que parce qu'il part du point de vue du tueur, alors certes, l'histoire sur laquelle ça se base, il y avait une vraie lettre et on sait quelles étaient les motivations du tueur, mais je trouve que quand tu fais un film sur une tuerie de masse dans une école, il y a toujours quand même la question inhérente à celle de l'Amérique du Nord, qui est que tu peux te procurer des armes très facilement. Donc il y a quand même un problème qui relève de la responsabilité de l'individu, mais aussi de la société derrière, en fait. Et je trouve que là où dans Elephant, c'est évident, où en plus le film passe son temps à te donner des bribes d'indices sur pourquoi les mecs auraient pu le faire, mais en fait c'est toujours très ambigu et jamais t'auras une réponse claire à ses motivations. Si ce n'est que tu vois que bah ils peuvent se faire livrer chez eux par UPS un putain de flingue. Dans Polytechnique, je ne crois jamais à ça. En fait, je crois jamais au fait qu'ils remettent vraiment en question, si ce n'est les dogmes de la société patriarcale qui ont justifié que ce mec soit antiféministe. T'as jamais le pourquoi du comment. Enfin, en fait, t'as jamais justement cette ambiguïté-là qui fait surtout que c'est plus large que juste ce mec-là, en fait, que c'est un élément sociétal. Mmh. Et comme en plus derrière, t'as ces gens qui arrivent ou pas à se reconstruire, je trouve que ça, en fait, ça dépasse jamais l'individu, alors que Villeneuve devrait sortir de ça, en fait. Ça, c'est une question sociétale.
En vrai, je suis d'accord sur ce que tu dis sur le côté. On sent qu'il essaye de ne pas mettre de suspense, mais il échoue. Tu sens que sa mise en scène, genre je pense aux deux filles qui se font tuer en hors champ dans la grande salle, tu sens que là il essaye d'orienter sa mise en scène de manière à ce qu'on ne voit pas ça comme un élément de suspense, mais le fait est que même la manière dont il l'a mis en scène avant, ça fonctionne pas trop quoi. Donc là-dessus je suis plutôt d'accord. Après sur le fait de vraiment se concentrer uniquement sur l'ambition sexiste de l'attaque, je trouve ça assez quand même, certes c'est bourrin et tout, mais quand même assez. C'est vraiment un terme horrible à dire à propos d'un film, mais je trouve que là, c'est assez le cas, c'est un peu nécessaire, dans le sens où, finalement, le fait de reprendre sa lettre, c'est un des trucs les plus... Dès le début du film, c'est un des trucs les plus intéressants qu'il y a dedans, je trouve, dans le sens où les arguments du tueur sont des arguments qu'on retrouve encore aujourd'hui partout, quoi. Plastifié sur internet dans tous les sens, c'est un mode de pensée qui s'est répandu mais de manière assez incroyable quoi, et le fait que lui il prenne du temps et de façon certes hyper bourrin de te déconstruire ça en te montrant une sorte d'escalade horrible, je dis pas que c'est parfait, mais le fait est que c'était peut-être la bonne manière de le faire.
Voilà. Mais il y a presque quelque chose de par rapport à ce que tu dis, notamment dans ce qu'on on parlait de l'entretien, mais dans mon souvenir, il y a d'autres éléments où on se dit bah pourquoi bah parce que c'est une femme en fait, elle peut pas bah, machin etc. Ou en tout cas, elle est moins à même qu'un homme à faire que quelque chose etc. Je trouve qu'il y a potentiellement cette idée, même si peut-être que ça va un peu loin, de finalement en fait on accepte déjà ça dans la vie, et finalement cette attaque, cette fusillade ultime, ce ne sera que la continuité finale de tout ce qui se passe déjà en fait. Donc pourquoi on s'en émeut plus, parce qu'évidemment il y a des morts, mais en vérité est-ce que c'est tout l'objet, je pense, de la fin aussi, au-delà de l'idée de le tueur s'est libéré parce qu'il s'est tué, et elle est toujours en vie, donc elle doit le subir. C'est pas tant qu'elle doit subir ce qu'il a fait, mais qu'en fait ce qu'il a fait n'a rien changé. Les femmes sont toujours aussi mises à l'écart, etc., dans un système qui finalement accepte le fait que les femmes puissent subir la misogynie masculine en permanence, et tout le système anti-femme et plutôt patriarcal justement. C'est ça que je trouve potentiellement plus fort dans le film que l'aspect visuel et l'aspect hyper bien mis en scène, etc.
Si un jour on fait un podcast sur le sujet, il faudra qu'on évite de se trouver entre trois couillasses pour parler.
En effet.
Pour parler de film qui parle d'antiféminisme. Ouais.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Polytechnique est peut-être l'un des films qui divise le plus chez Villeneuve, et pourtant dans la foulée, il a fait un de ses films qui est peut-être l'un de ses plus acclamés dans sa carrière, à savoir Incendie.
Alors qu'il aurait pu vraiment diviser aussi. Hein,
ouais, alors
le sujet, comment c'est traité.
Et juste pour revenir sur Maelstrom, en fait, je comprends aussi pourquoi il a fait une pause d'une certaine manière. Je pense parce qu'en fait, il a réussi à obtenir 7 ou 8 Jutra ou Juria, je sais plus comment ça s'appelle. Attends,
les prix québécois.
C'est ça, des prix Jutra, ce qui est quand, en gros, les Césars canadiens ou les Oscars canadiens, quoi. Et quand c'est ton deuxième film et que t'as déjà remporté meilleur film, meilleur réel. Je pense que tu te remets en question, tu dis bah qu'est-ce que je vais faire maintenant parce qu'en fait j'ai atteint le graal de mon pays, donc tout simplement
c'est ça.
Et c'est un peu ce qui se passe aussi avec Polytechnique quand il revient. Il gagne pas le meilleur film parce que c'est J'ai tué ma mère d'un certain Xavier Dolan qui l'emporte, mais il gagne meilleure réalisation encore une fois. Et donc qu'est-ce qu'il peut faire de plus quoi, vraiment.
Il y a quand même cette année-là, il y avait une cohérence dans les titres et les thèmes des films flippante.
L'amour, à vous là.
Mais donc tout ça pour revenir à Incendie, ce qui est intéressant parce que en plus c'est un film qu'il fait en même temps que Polytechnique, les deux films s'écrivent vraiment en même temps, et c'est juste que Polytechnique se tourne avant Incendie, donc Incendie sortira lui en 2010. Et d'ailleurs Villeneuve est le premier à dire que ce sont des films jumeaux, ce qui est d'ailleurs assez cohérent avec le thème principal d'Incendie qui tourne autour de personnages jumeaux, et qui est donc une adaptation de la pièce assez connue de Wadji Mouahad, et qui donc suit le parcours de Nawal Marwan, donc une femme qui a fui un pays qui n'est pas vraiment défini, mais on suppose que c'est très inspiré par le Liban et la guerre civile civile du Liban, et qui a donc eu deux jumeaux, Jeanne et Simon. Et au début du film, donc, Nawal est morte et demande à ses enfants de retrouver leur frère qui a plus ou moins disparu, ainsi que leur père, que, enfin, eux, ils pensent que leur père est mort au Liban, alors que, a priori, c'est pas le cas. Et du coup, ils vont sur place pour redécouvrir un peu leurs origines. Et pourquoi tu rigoles comme ça, Mathieu?
Quand t'as vu le film, rien qu'écouter le pitch, c'est horrible.
Alors, ce qui est cool, c'est que du coup, Villeneuve, c'est quand même pas mal éloigné de la pièce originelle, même si, et d'ailleurs, il a vraiment eu la bénédiction de Mouahad. Et donc, c'est pour ça aussi que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a néanmoins gardé cette idée que même si on pense au Liban, il n'y a pas vraiment de pays qui est spécifié. Et d'ailleurs, la ville principale qui s'appelle Daresh dans le film est donc purement fictive. Et Villeneuve disait lui-même que c'était important pour lui d'inscrire le film dans un territoire imaginaire pour mieux déjà le dégager de tout parti politique. Parce que bah, la guerre civile au Liban, moi-même étant pas expert historique, pour avoir un peu fait 2-3 recherches, c'est tellement... le chaos, c'est tellement le bazar que c'est très compliqué de... De toute façon, il y avait tellement de camps différents et des camps qui se sont retournés entre eux-mêmes, qui se sont subdivisés, qui... Enfin, là, il y a tellement eu de morts dans tous les coins que c'est assez compliqué à estimer. Et je pense que justement, de ne pas avoir cité explicitement de territoire, non seulement ça renvoie à ce qu'on disait déjà avant de cette idée d'un territoire plus mental, qui est celui du personnage de Nawal dont on apprend le... dur passé, à travers le point de vue des enfants qui découvrent finalement quelles sont leurs origines et quel est aussi leur héritage, du coup, et on revient aussi à ce qu'on disait sur l'héritage. Mais je trouve aussi que ça permet vraiment de, pour Villeneuve, de effectivement éviter le piège d'un point de vue trop politique, et d'un point de vue du camp, puisque Nawal, d'ailleurs, on le découvre, finalement switch un peu de camp aussi en cours de route, au vu de ce qu'elle subit, ce qui lui vaudra notamment, quelques années de prison après avoir tué un opposant politique, à un moment donné. Donc il y a quand même pas mal de trucs qui tournent autour de ça. Bon, après, je sais pas si, peut-être qu'on... Allez, faut peut-être y aller, faut peut-être oui. Mettre les pieds dans le plat quand même. Faut peut-être qu'on parle de l'éléphant dans le magasin de porcelaine qui est le twist plus ou moins du film, si on peut parler vraiment d'un twist. Mais donc le fait que Jeanne et Simon découvrent non seulement qu'en fait ils sont nés au Liban et pas au Canada, dans la prison où leur mère était retenue captive à ce moment-là suite à l'assassinat de l'opposant politique, mais surtout que la personne qui est leur frère
est toujours vivant et que leur père est toujours vivant et c'est normal puisque c'est la même personne en fait, tout simplement,
puisque du coup au tout début du film on comprend que elle en tant que chrétienne est sortie avec un musulman qui s'est fait assassiner, mais que elle est tombée enceinte, mm-hmm. et que ce premier enfant qu'elle a eu a été mis dans un centre pour enfants pendant qu'elle faisait ses études. Dans un orphelinat, pardon. Quand la guerre éclate, elle essaie de le récupérer, mais elle a pas le temps. Les enfants ont déjà été, l'orphelinat a déjà été bombardé. Les enfants ont été récupérés par les militaires. Et donc, plus tard, quand elle se retrouve en prison, elle a un bourreau qui la viole, qui du coup lui donnera ses deux jumeaux, et elle ne se rend compte que des années plus tard que cette personne est justement son fils qu'elle a recherché toutes ces années. Ce qui est horrible.
La première fois que j'ai vu le film, je m'attendais à tout à fait autre chose, parce que tu sais, ces histoires de des personnages qui ont des origines d'un certain pays et on leur dit d'aller chercher, de revenir en fait d'où ils viennent, c'est souvent des histoires, je sais pas, mais il y a un peu un cliché de l'histoire qui se passe pas trop mal, qui te permet de partir à la découverte d'une histoire, d'un pays, etc. Et là, c'est tellement hardcore et c'est tellement d'une cruauté sans nom à la fin. C'est-à-dire que leur recherche qui est pleine d'espoir, cette fameuse histoire de l'équation qui fausse les mathématiques parce qu'on arrive dans le domaine de l'inceste qui est même pas concevable en fait pour nous, quoi. Elle est tellement radicale que je suis même étonné en fait qu'il ait réussi à aller jusque les Oscars et etc.
Oui, parce que c'est vraiment le film qui va le faire vraiment décoller à l'international, ouais. Puisque nomination à l'Oscar du meilleur film étranger qu'il n'aura pas cette année-là, mais le film est quand même très très remarqué.
D'autant qu'il y a des scènes très difficiles. Au-delà de ça, on parle quand même beaucoup de torture. Il y a la fameuse scène avec le bus où elle a encore une fois. Gros cliché de « j'arrive à sauver l'enfant d'autrui en prétendant que c'est ma fille ». Et lui, déjoue complètement ça en flinguant la gamine plein cadre. Enfin, c'est...
Sur un plan large.
Sur un plan large,
ouais,
mais quand même, quoi.
Ouais, mais quand tu la vois tomber, tu fais « oh ».
Ah ouais, ouais. Bah, d'autant qu'elle part vers le hors-champ et du coup, tu te dis « ah, il va la flinguer hors-champ ». Et non, quoi. Il décroche, enfin, il raccorde sur un plan large et tu vois tout. Tu vois le mec qui tire, tu vois la fille qui tombe. C'est vraiment un film qui veut te montrer les trucs frontalement. Et je pense que le choix de faire ce pays imaginaire, vas-y, entre guillemets, rien à voir avec Peter Pan,
Oula, non.
c'est un choix qui est assez malin, car du coup, ça fonctionne mieux. Enfin, on peut moins l'accuser de voyeurisme dans cette mise en scène de la violence.
Bah, et puis pour Mouawad, c'était déjà de base important, parce qu'il y avait cette idée de déjà d'encapsuler sa propre colère aussi par rapport à ses propres origines, et de justement éviter, voilà, de politiquement trop charger aussi le film d'un camp ou dans l'autre, ce qui serait extrêmement délicat. Mais je pense surtout que ça, c'était important parce que quand tu parles du Liban et de cette guerre civile, en fait, au final, quand tout s'est terminé en 90, il y a eu beaucoup d'amnistie dans tous les sens, les gens se sont plus ou moins pardonnés. C'est ce que tu vois dans le film, puisqu'ils cherchent en cours de route un chef de guerre qui saurait des informations sur le frère disparu. Et en fait, bah, donc le mec est planqué quelque part, mais c'est acté plus ou moins que, bah, juste le mec t'appelle, il va te donner rendez-vous, t'as un bandeau sur les yeux pour pas savoir trop où on t'a emmené, mais tu peux discuter avec le mec tranquillou et le mec vit sa vie comme si de rien n'était. Et en fait, comme il n'y a pas de monument aux morts, qu'il n'y a pas vraiment de mémoire de cette horreur-là, et que c'est justement, bah, tout ça que les personnages ont réveillé en cours de route, je pense que t'avais aussi ce besoin, voilà, de cette abstraction en cours de route qui aussi renvoie à ce qui est primordial dans le film en tant qu'adaptation de pièce de théâtre. Et c'est ce que certains ont reproché au film, mais que pour le coup je trouve très malin quand même, c'est de tenir à ce que voulait faire Mouawad, qui était aussi de faire une tragédie grecque, en fait. Donc là, évidemment, bon, avec le twist, tu penses à Oedipe, tu penses aussi un peu à Phèdre. Enfin, il y a tellement de trucs que ça évoque. Et certains ont trouvé ça un peu risible que le film s'accroche à ça, ce qui peut paraître complètement irréaliste. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ça, comme il est au plus près des corps, qu'il est au plus près de, pour le coup, il a effectivement pas ce côté voyeuriste qui me déplaît dans Polytechnique, où là, t'es vraiment sur comment les personnages essaient de se dépatouiller dans un espace dans lequel ils n'ont aucun contrôle. J'aime beaucoup sa manière d'approcher ces personnages-là et du coup tout ce qui leur tombe sur le coin de la tronche et la tragédie vraiment de leur vie, en fait.
Ouais, en fait, si tu conserves cette idée, enfin, le fait qu'il ait conservé cette idée de, en effet, 1 plus 1 égale 1 finalement, et que le frère pouvait aussi être le père, et que, en fait, je trouve que c'est justement, au contraire, la grande idée du film par rapport à cette idée de, qui correspond aussi un peu à ses premiers films et qu'on pourra aussi voir, dans les futurs films de sa carrière, c'est qu'en fait tout n'est pas aussi simple qu'on peut le prétendre, qu'on peut l'imaginer, en fait. Il n'est pas forcé que tout se passe comme on l'imagine. On verra dans Dune que finalement un héros n'est pas forcément un héros, ou qu'un méchant n'est pas forcément le méchant, que dans Premier Contact une invasion n'est pas forcément hostile, ou etc. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il vient reprendre jusqu'à la dernière minute, même si c'est pas forcément nécessaire dans l'idée de dernière minute, mais juste cette idée que même si ça vient sans doute pas de lui, hein, puisque ça vient de la pièce de théâtre, mais que c'est toujours plus complexe que ce qu'on imagine. Et ça correspond bien à sa filmographie de toujours aller chercher plus loin, tout simplement.
Bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est tourné vers ce genre de projet-là, parce qu'il a dit lui-même que d'ailleurs la pièce, il l'avait vue à l'époque et que ça avait été un choc énorme pour lui, et c'est ça qui lui avait donné envie de l'adapter. Et je pense qu'effectivement, cette idée, on en revient à cette notion de chaos, et on en reparlera peut-être plus dans d'autres réus, parce que c'est vraiment un terme qui revient encore plus explicitement dans le cinéma de Villeneuve. Mais comment tu essaies de vivre avec le chaos qui te tombe sur le coin de la gueule? Et là, dans le cas d'incendie, c'est encore plus beau, parce que c'est vraiment cette idée de Nawal qui n'a pas réussi, selon elle, à survivre à ça, puisque du coup t'as cette scène incroyable où elle comprend au détour d'une piscine que donc le père de ses enfants est également son fils, juste au travers d'un tatouage qu'elle n'avait jamais vu avant, mais où, donc trois petits points sur une cheville qui en fait se révèle être le tatouage que son fils a eu à la naissance, et qui sera un choc qu'elle n'arrivera jamais à, enfin qui va d'ailleurs amener à sa mort, puisqu'elle va plus ou moins faire un arrêt à ce moment-là, elle va déphaser complètement et ça va amener à son décès. Et les enfants doivent eux apprendre à vivre avec ce qu'est leur sang, leur histoire familiale et l'histoire plus générale d'un pays tout entier derrière. Et comment tu te reconstruis là-dedans? Est-ce que c'est même possible? Et le film reste assez ambigu là-dessus, puisqu'il y a cette image très belle de Nawal qui ne veut pas dans son testament de pierre tombale tant que la vérité n'a pas éclaté et qui pourra en avoir une. Donc finalement, il y a quand même une mémoire qui s'installe à la toute fin du film, et c'est d'ailleurs le fils slash père qui débarque à ce moment-là sur la pierre tombale à la fin du film, mais ça résout pas tout non plus, en fait. Et c'est ça que je trouve assez beau.
Mais je trouve que c'est encore plus beau dans l'idée où, en fait, il y a une mémoire à partir du moment où il y a quelque chose à se souvenir. Et notamment toute cette recherche que font les gosses, qui au début, notamment le personnage du fils, n'a pas du tout envie de faire. Il est en mode, c'est bon, stop, arrêtons cette histoire. Maman est morte, donc maintenant, on va passer à autre chose. Quoi.
C'est sous-entendu qu'ils ont une relation un peu conflictuelle. Et bon, après, tu comprends pourquoi, du coup. Parce qu'elle n'a jamais trop su supporter l'origine de ses enfants.
En plus, il est joué par l'acteur qui joue le tueur dans Polytechnique. Donc,
Excellent acteur par ailleurs.
Mais t'as même une image plus, enfin t'as même une image, je trouve que tu vois là pour le coup le symbolisme de Villeneuve pour moi a vraiment du sens ici parce que comme le film est finalement assez direct dans sa progression, jamais trop littéraire malgré d'ailleurs l'inspiration théâtrale qu'il s'est pas mal réapproprié, je trouve qu'il y a vraiment un truc dans la mise en scène qui est très puissant dans sa façon de finalement de filmer des mouvements contradictoires en fait. T'as au début du film cette image très belle de justement les militaires commencent à arriver dans l'université où est Nawal à ce moment-là. Donc non seulement déjà t'as évidemment la bascule entre passé et présent qui se fait en permanence tandis que la vérité éclate. Et en même temps, tu vois Nawal qui, elle, fait le chemin inverse des militaires enfin, et des nationalistes qui commencent à arriver et qui, d'ailleurs, donc, va vers le sud du Liban pour essayer d'aller récupérer son fils, pour finalement être toujours à contresens, mais être obligé de faire demi-tour. Et c'est là que le pire la frappe, donc cette fameuse scène du bus où tous les musulmans sont assassinés par une milice chrétienne. Il y a un truc que je trouve... très beau là-dedans, et plus tard dans le film, t'as d'autres éléments qui renvoient constamment à cette idée du contresens, et au final, dans ce chaos de cet espace et de la vie, comment les personnages arrivent pas vraiment à avoir d'impact. En fait, ils doivent aller avec le sens du vent, quoi. T'as cette scène très belle quand ils ont compris qu'ils étaient nés en prison, donc Simon et Jeanne, et où ils vont dans la piscine parce qu'ils ont plus que ça pour essayer de se libérer peu de la colère qu'ils ressentent. Et t'as ce plan très beau où ils s'attardent en fait sur Simon qui nage, enfin qui fait un crawl très rapide, mais au final il sort du champ et immédiatement après tu sais, l'eau redevient calme en fait, parce qu'une fois que t'es passé et que t'as fait ton truc, tu peux pas empêcher en fait l'eau de revenir à son état naturel. Et je trouve que t'as un truc dans sa gestion des éléments, qu'il te filme le sable, le feu évidemment, notamment du bus ou l'eau comme ça, je trouve qu'il y a des éléments comme ça qui se répondent extrêmement bien et c'est une des rares fois d'ailleurs où je trouve que Villeneuve est autant spot on sur sa manière de créer de la symbolique visuelle sans que ça soit trop lourdingue, parce que peut-être aussi parce qu'il y a la pièce derrière et que le truc est très puissant, mais en tout cas je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien.
Et du coup on arrive au moment où la question de est-ce que c'est un auteur se pose, et à un moment où, selon moi, la réponse est oui, parce qu'il sait très bien choisir ses projets. C'est-à-dire que ces deux premiers films, ça vient de lui et tu le sens, mais à partir de là, et ça va vraiment être le cas sur tout ce qu'il y a par la suite, enfin pour moi, Premier Contact, c'est adapter ce bouquin-là, c'est la meilleure façon de rentrer vraiment dans le gros du blockbuster hollywoodien, de la même manière que adapter le bouquin dont est adapté Enemy, c'était une très bonne manière de venir aussi dans cette industrie-là. Là, c'est pareil, il prend cette pièce-là et s'il n'avait pas fait sienne, s'il n'avait pas récupéré cette histoire-là qui correspond vraiment à cette thématique, il n'aurait pas percé à ce point-là. Et je pense que c'est vraiment, c'est aussi une qualité d'avoir cette préscience, on va dire, pour les projets. Voilà.
Ouais, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi, je trouve que c'est incendie qu'on le remarque le plus, mais il y a un vrai talent dans la direction d'acteurs et d'actrices, et surtout dans la trouvaille, parce que tu disais que il y avait cette idée de contresens et par rapport aussi à la narration non linéaire mais plus ou moins qui chevauche, etc. Je trouve que les deux actrices qui jouent la mère et la fille se ressemblent énormément. Il y a vraiment cette continuité où plus ou moins en fait la mémoire se fusionne d'une certaine manière. En fait, la quête de la fille ressemble énormément à la quête de la mère, et les deux se ressemblent ensemble, et il y a une forme de tout se rejoint. En fait, c'est deux histoires différentes, mais c'est la même histoire. Ouais, et c'est ça qui est très beau, je trouve.
Bah, je trouve Lubna Azabal, qui joue donc Nawal, je la trouve mais bouleversante du début à la fin du film, en particulier dans la période où elle est en prison. Et puis, il y a vraiment, moi, ce plan qui me hante le plus dans le film. Donc, pour le coup, quand tu suis Jeanne, qui est jouée par Mélissa Desormeaux-Poulain, le moment où, justement, d'ailleurs, donc le frère lui sort là, est-ce que 1 plus 1, ça peut faire 1? Et que là, elle comprend, et qu'elle a une espèce de... tu as vraiment de peur, et que là évidemment je fais très mal, mais elle le joue bien mieux, mais le truc qui tombe comme un couperet, et c'est vraiment la compréhension soudaine de ce qui est en train de se passer, et à ce moment-là ça te foudroie comme séquence, et parce qu'il prend le temps, il reste juste sur leur visage, sur la simplicité de la séquence, c'est assez dévastateur.
Je suis d'accord.
C'est bien Incendie.
Oui, c'est un très très grand film.
Bon bah voilà, en tout cas je trouve que c'était une bonne entrée en matière. Donc je vous propose que pour cette fois on s'arrête là pour aujourd'hui et on reprendra la semaine prochaine cette rue pour parler de l'entrée de Denis Villeneuve dans le giron américain, enfin états-unien, on s'entend. C'est juste dommage qu'Écran Large n'arrive toujours pas à faire de ces petites réflexions de groupe des podcasts parce qu'on est trop bon en plus et je suis sûr que nos lecteurs le diraient en commentaire. Et je suis sûr aussi qu'ils penseraient à mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et à s'abonner et on pourra les en remercier parce que ça reste le plus important.
Eh oui.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.